Nous allons prier et incliner notre tête, même si on est distant l'un de l'autre. Ce n'est pas une église normale, mais c'est comme ça. J'espère que le Seigneur, lui qui est esprit et vie, nous écoute. Et les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. On n'a pas besoin d'autre chose. Merveilleux Père Céleste, nous venons à toi. En ce précieux nom de Jésus-Christ, le Sauveur de nos vies. Celui qui est venu et nous sommes joyeux d'être réunis et être encore devant ta présence divine et surnaturelle qui nous soutient. Et encore ce soir qui veut bénir nos cœurs. Tu vois les besoins dont nous avons chacun de nous, grands et petits. Seigneur, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, mais toute chose, tu l'as sous ton contrôle. Voilà pourquoi nous sommes confiants ce soir. Tu béniras tous les cœurs, tu sanctifies ta parole, sanctifie ce que nous allons lire, afin que nos cœurs puissent se réjouir de ta présence. Oui, Seigneur, nous voulons être un avec toi. Dans ce temps difficile et triste, nous voulons rester attachés à toi. Oui, Seigneur, parle encore ce soir à nos cœurs, vivifie ta parole par ton esprit et glorifie ton saint nom. À toi nous donnons gloire, honneur, remerciement, adoration. Au nom glorieux et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Ça fait bizarre de ne pas pouvoir vous voir. Voilà, nous pouvons commencer. Nous allons commencer à lire. Nous étions arrivés à la page 9 en italien. Il restait un petit paragraphe. On était resté à ou à la fin, il est écrit que c'est un modèle d'incrédulité qui vient de Satan lui-même. Donc on parlait de défis d'Apocalypse qui mettent de côté la parole. Donc ici, donc il faut dire que ce n'est pas Frère Franck qui le dit, mais c'est une lecture du livre sur les sept âges de l'Église, simplement l'aspect historique de l'éveil. Mais où en sommes-nous spirituellement? Nous sommes dans un désert de ténèbres. Combien nous nous sommes éloignés de l'Église primitive? Il n'y a plus rien qui ressemble à la Pentecôte et la parole est absente. La succession apostolique, aujourd'hui, chose courante, ne se trouve pas dans la parole. C'est un système fabriqué par l'homme. C'est une usurpation illégitime de la vérité selon laquelle c'est Dieu et non l'homme qui a établi ses conducteurs dans l'Église. Pierre n'est pas allé à Rome et pourtant ils mentent et disent qu'il y est allé. L'histoire prouve qu'il n'y est pas allé. Il y a des gens qui étudient l'histoire mais qui haussent les épaules et retournent croire en mensonge. Où trouve-t-on le vicaire du Christ dans la parole? Personne ne prend sa place et pourtant c'est ce qui a été fait et les gens l'acceptent. Où trouve-t-on que la révélation ajoutée est acceptée par Dieu, surtout si elle est contraire à la révélation donnée précédemment, et pourtant ils acceptent cela et s'appuient là-dessus. Où trouve-t-on un purgatoire, entre guillemets? Où trouve-t-on une messe? Où trouve-t-on qu'on peut échapper à l'enfer en donnant de l'argent? Ce n'est pas dans la parole, mais les hommes ont mis cela dans leur livre à eux. Et ils ont utilisé cela pour soumettre les gens en les gouvernant par la crainte. Où trouve-t-on que l'homme a le pouvoir de nous pardonner comme s'il était Dieu. Des lourds ravisseurs, le terme n'est pas de guerre assez fort pour les décrire. Du nicolaïsme, une organisation, l'homme au-dessus de l'homme. Maintenant, Fratello Franco, mi senti? Fratello Franco?
Sì?
Ah, scusi, sto traducendo, ma il libro che leggiamo non è del Fratello Franco, è sempre Le Sette Epoche della Chiesa di Fratello Nivelle, tra parentesi. Sì, è ciò che Fratello Franco ha detto, che possiamo almeno leggere la storia. Dunque, sì, sì, non è Fratello Franco che lo scrive? Grazie. Voilà, donc je reprends. La doctrine des Nicolaïtes, donc c'est toujours le livre sur les sept âges de l'Église, Apocalypse 2, 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Vous vous rappelez que j'ai expliqué dans l'âge d'Éphèse que le mot Nicolaïte vient de deux mots, Nikao, qui signifie conquérir, et Lao, qui veut dire les laïcs. Nicolaïte veut dire conquérir les laïcs. Or, pourquoi est-ce une chose si terrible? C'est terrible parce que Dieu n'a jamais remis son Église entre les mains de chefs élus qui agissent avec des arrière-pensées politiques. Il a confié son Église à des hommes établis par Dieu, remplis de l'Esprit, vivant la parole, qui conduisent les gens en les nourrissant de la parole. Il n'a pas séparé les gens en classes, de sorte que les masses soient conduites par une sainte prêtrise. Donc ici, nous continuons à lire les sept âges de l'Église. On est au chapitre 5, page 189, dans la version française. Les sept âges de l'Église, chapitre 5, page 189. Il est vrai que les conducteurs doivent être saints, mais ce doit aussi être le cas de toute l'Assemblée. De plus, la parole ne mentionne nulle part que des prêtres, des ministres du culte ou autres font office de médiateurs entre Dieu et les gens. Pas plus qu'elle ne mentionne qu'ils sont séparés dans le culte qu'ils rendent au Seigneur. Donc voyez un peu, vous voyez, frère Franco dit, regardez un peu. Donc c'est une bonne pensée qui est juste et qui est vraie. Parce que les vrais témoins, c'est ceux que Dieu a dit qu'ils sont témoins. Quand on va lire dans les Actes des Apôtres, 1, 8, « Et vous me serez témoins. » Donc, ils doivent être témoins du Christ pour pouvoir porter la parole. C'est-à-dire qu'on parle de fonction de médiateur. Donc, c'est pas qu'il y a des gens qui sont séparés, mais on doit les identifier par la parole. Parce que si on continue, on va lire que justement, ces personnes-là, on entend souvent dire, on dit souvent, « Ah, il prêche bien à lui. » Il y en a qui doivent faire ce qu'ils doivent faire. Mais les anciens, les vrais anciens, les vrais les vrais surveillants, c'est comme si on ne s'en occupe pas. Mais ça, c'est faux. Donc, si on lit dans les actes des apôtres, si on lit dans les actes, donc on va. Donc, c'est des passages qui s'adaptent à ce que nous sommes en train de lire. Donc, c'est des choses qui étaient dans l'histoire. Acte 1, 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous voyez ce qui est important, si on rentre dedans. Donc il est vrai que les conducteurs doivent être saints, mais aussi toute l'assemblée. Donc c'est pas seulement une partie ceux qui prêchent, mais c'est tout le monde. Donc, on continue à lire. Il est vrai que les conducteurs doivent être saints, mais ce doit aussi être le cas de toute l'assemblée. De plus, la parole ne mentionne nulle part que des prêtres, des ministres du culte ou autres font office de médiateurs entre Dieu et les gens. Pas plus qu'elle ne mentionne qu'ils sont séparés dans le culte qu'ils rendent au Seigneur. Dieu veut que tous l'aiment et le servent ensemble. Le nicolaïsme détruit ces préceptes en séparant les ministres du culte d'avec les gens et en donnant aux conducteurs une place de dominateur au lieu d'une place de serviteur. Donc, vous tous, vous avez lu ça. Et pourtant, on peut dire que cette chose, c'est comme si elle nous avait échappé. Parce que, quand on voit le comportement qu'on voit maintenant, c'est vraiment différent de ce qui est écrit dans la Bible et même dans l'histoire. Quand on lit Luc 11, Luc 11, 46. Et il dit, « Ah, vous aussi, malheur, docteur de la loi, car vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous-même, vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts. » Voyez, il y a des gens qui prêchent bien, mais... Donc faites ce que je dis, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et on sait ça. Nous qui venons de l'enseignement, disons, de cette église catholique, on sait tout ça, vous voyez. Donc ce sont des choses qui existent et qui existent encore. Mais ça ne devrait pas exister dans la vraie église de Jésus-Christ. Un autre passage dans Jean 13, 16. Jean 13, 16. Quand on fait le lavage des pieds, souvent on le cite. Jean 13, 16. En vérité, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous voyez? En vérité, je vous dis, l'esclave n'est pas plus grand que son seigneur. Parce que souvent, c'est ça, là, le problème. Et ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc, je crois que maintenant, on a compris ça. Dans le cœur de l'époux, dans l'élu, dans le cœur de l'épouse, des vierges sages, je crois que cette chose est claire. Et ça ne va pas partir. On continue la lecture. En fait, cette doctrine avait pris naissance dans le premier âge sous forme d'une œuvre. Parce que ça commence par des œuvres. Il faut faire ça. Vous pouvez rentrer dans le paradis faisant ça, etc. Et il apparaît que le problème venait de deux termes. Ancien, presbytre, donc en presbyteros en grec. Et surveillant, épiscopos, évêque. Bien que l'Écriture montre qu'il y a plusieurs anciens dans chaque église, certains, dont Ignace, se mirent à enseigner que le rôle de l'évêque était d'avoir la prééminence, c'est-à-dire l'autorité et la haute main sur les anciens. Donc cet enseignement, on sait d'où ça vient. Vous voyez ? On continue. Or, en fait, le mot ancien, un ancien, se rapporte à la personne elle-même, alors que le mot évêque, surveillant, épiscopos, se rapporte à la fonction remplie par l'homme en question. Donc c'est de la même personne, c'est une même personne. Un ancien, un surveillant, c'est la même personne. C'est la fonction de ce qu'il fait. C'est-à-dire la fonction qu'il a d'enseigner, de corriger, etc., etc. Mais c'est toujours la même personne, le même ancien qui est là. L'ancien, c'est l'homme. Épiscopos, c'est évêque ou surveillant, c'est la fonction de ce même homme. Ancien a toujours désigné et désignera toujours l'âge qu'un homme a dans le Seigneur. L'âge, la maturité qu'un homme a dans le Seigneur. Vous voyez ? Dans le Seigneur. Il est un ancien, non pas parce qu'il est élu ou ordonné, etc., mais parce qu'il est plus ancien. Parce qu'il est plus ancien, il est plus mûr, mieux exercé. Ce n'est pas un novice. Il est digne de confiance à cause de son expérience et d'une expérience chrétienne éprouvée par le temps. Voilà. Donc, comme on l'a déjà lu avant, l'ancien a toujours indiqué et indiquera toujours l'âge ou la maturité qu'un homme a dans le Seigneur. C'est-à-dire son expérience avec Dieu, ce qu'il a fait à travers la parole de Dieu, la foi qu'il a eue, durant le chemin chrétien qu'il a eu, qu'il a réalisé, en esprit et en vérité. Donc une chose réelle, une chose vraie, véridique. On continue la lecture. Mais non, les évêques ne s'en sont pas tenus aux épîtres de Paul, mais ils se sont référés au récit que Paul fait de la fois où il avait appelé les anciens d'Éphèse à Milet, dans Acte 20, au verset 17. Donc, les catholiques se sont appropriés d'une parole du frère Paul. Et ils ont tordu cette parole, cette chose-là. Ils l'ont tordu, ils l'ont changé. Et on va le lire dans Acte 20. Donc, ils se sont référés au récit que Paul fait de la fois où il avait appelé les anciens d'Éphèse à Milet, dans Acte 20, au verset 17, le récit déclare qu'il avait envoyé chercher les anciens. Puis au verset 28, ils sont appelés surveillants, évêques en français. Surveillants ou évêques. Et ces évêques, sans aucun doute, donc ils ont tordu cette parole. Et ces évêques, entre parenthèses, sans aucun doute, animés d'arrière-pensée politique et avide de pouvoir, affirmait avec insistance que Paul avait voulu dire que les surveillants étaient plus que l'ancien local, dont la compétence officielle était limitée au cadre de sa propre église. Pour eux, donc, un évêque était maintenant quelqu'un dont l'autorité s'étendait à plusieurs conducteurs spirituels locaux. Donc c'était comme un bras ramifié qui allait dans toutes les autres églises pour pouvoir diriger et faire un peu... Nous, on appelle ça le pape, mais voilà, il voulait faire comme ça. Avoir l'autorité qui ne lui a jamais été donnée par le Seigneur. Et ce concept n'était conforme ni à l'Écriture, ni à l'histoire. Et pourtant, même un homme de l'envergure de Polycarpe penchait... qui venait de la... Donc ce Polycarpe penchait vers ce genre d'organisation. Donc il y avait vraiment un manque de révélation. Il y avait vraiment un manque de position pour la vérité. Donc ils allaient dans la voie large. Cet esprit nicolaïte, que cet esprit nicolaïte a planté, et que encore maintenant nous voyons. C'est important à comprendre ça. On peut voir une chose. Je dis ça en parenthèse. C'est très important. On peut noter toutes les erreurs qui ont été basées ou construites sur cette manière de voir, que ce soit que ces évêques ont déformé, ont tordu. Ils ont tordu la juste parole. Ils ont tordu la juste pensée de Paul, comme on a tordu la juste pensée du frère Branham, comme on tord les pensées du frère Franck. C'est la même chose. On continue à lire. Ainsi, ce qui avait commencé sous forme d'œuvre dans le premier âge est devenu une doctrine. Est devenu une doctrine au vrai sens du terme. Et il est resté jusqu'à aujourd'hui. Les évêques revendiquent toujours le pouvoir de contrôler les hommes et de faire d'eux ce qu'ils veulent, en les plaçant là où bon leur semble pour leur ministère. Ça, c'est renier la conduite du Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Voilà pourquoi c'est important de bien comprendre, de profondément comprendre ça. C'est anti-parole, c'est anti-Christ. C'est anti-parole et anti-Christ. Matthieu 20, 25 et 28. Jésus les appela, on va lire ce passage, et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera » pensez un peu à ça. Pensez à Israël. Pensez à l'Égypte. Pensez à l'esclavage. Pensez à l'époque des chrétiens, de Luther, quand la réforme est arrivée, avec toutes ces autorités qui existaient là, quand l'Église catholique mettait à mort les chrétiens, en pensant avoir l'autorité, etc. etc., etc. Donc on peut voir ça clairement. Donc je continue à lire. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » Attention. Comprenez bien. Donc je dis ça parce que quand un cœur est régénéré par le Saint-Esprit, il se soumet à la parole. Et il voit que cette chose est une usurpation. Il faut prendre une bonne position et ne pas être usurpateur. Sinon, ils deviennent eux-mêmes des usurpateurs au-dessus des frères. Donc Jésus dit, « Mais quiconque veut être grand parmi vous. » On l'a déjà prêché. « Quiconque veut être grand parmi vous. » Qu'il soit votre serviteur. Voyez? Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon, comme la rançon de plusieurs. Donc c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de plusieurs. Et aussi dans Matthieu 23, 8, 9, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. » Voyez ? Maître, maître, Rabbi. « Car vous n'avez qu'un maître, qui est le Christ, et vous êtes tous frères. » Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Ici, le Seigneur m'a mis à cœur de lire quelques Écritures, parce que beaucoup, beaucoup ont contredit cette parole. dans la Pentecôte, chez les pentecôtistes, disons, appelons ça comme ça, c'est-à-dire dans l'esprit dénominationnel. Et il dit, ah, mais moi je suis ton père, moi je suis un père pour toi. Et beaucoup de fois on entend ces choses-là. Ah, moi je suis comme ton père, je suis un père pour toi, je t'ai apporté à la foi. Et voyez, mais lisons des passages et nous voyons que ceci. C'est-à-dire qu'ils ont mal compris. Parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire. N'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père. Romains 4, 11. Commençons par Romains 4, 11. Romains 4, 11. C'est une chose qu'il faut mettre au clair, parce que ça fait partie des doctrines. Il faut que ça soit mis à jour. Romains 4, 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans l'incirconcision. Pour qu'il fût le père de tous. Vous voyez cette parole-là? Faites attention. Pour qu'il fût le père de tous ceux qui croient étant dans l'incirconcision. Pour que la justice leur fut aussi compté, et qu'il fut père de circoncision. Non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham. Les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham dans la circoncision. Voilà pourquoi il a été appelé d'une certaine manière le père de la foi. Mais ce n'est pas notre père. Et on le sait bien. Il faut que ce soit clair, ça. Vous comprenez? Il faut que les choses soient bien claires. Et aussi pour ceux qui écouteront, ils pourront aussi comprendre. C'est notre Père dans la foi. Donc Dieu l'a béni. Et à travers sa bénédiction, nous aussi, nous avons donc l'origine de cette bénédiction. Et nous aussi, nous avons aussi reçu la bénédiction. 1 Corinthiens 4, 14. Toujours Paul, 1 Corinthiens 4, 14. Toujours Paul qui parle. 1 Corinthiens 4, 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Vous voyez, Paul disait comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres dans le Christ, vous n'avez cependant pas beaucoup de pères, car moi, je vous ai engendré dans le Christ, Jésus. Vous voyez comment il est devenu père, c'est-à-dire par la prédication. Mais ce n'est pas un père. Mais on comprend de quoi il s'agit ici. C'est la parole qui nous régénère. C'est la parole de la foi qui va dans nos cœurs. Et cette parole est notre père, mais pas celui qui l'a prêché, en somme, hein, voilà. Donc, car moi je vous ai engendré dans le Christ, Jésus par l'évangile. Je vous supplie donc d'être mes imitateurs. Galates 4, 19. Lisons à partir du 18. Mais il est bon d'être toujours zélé pour le bien. Et de ne pas l'être seulement quand je suis présent avec vous. Mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille. Vous voyez ces paroles? Si on prend ça dans la lettre, si on s'attache à la lettre, on dirait que c'est en contradiction. Avec n'appelez personne votre père, n'est-ce pas? On pourrait dire ça. Mais en réalité, c'est pas comme ça. On voit bien clair. Pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. À travers la prédication, à travers l'exhortation, etc. Je voudrais être maintenant, etc., etc. Donc, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous. On parle de la parole de la prédication. Bon, on peut dire que c'est ça notre Père. C'est lui qui les a générés en Jésus-Christ, la parole. La parole, la foi en Jésus, en Christ. Et lisons aussi Philémon, l'épître à Philémon. Philémon 10, verset 10. C'est après Tite. Là, on voit aussi quelque chose de particulier. Juste après Tite, Philémon. Paul, premier verset. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, le bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, et à la sœur. Donc, il y a un verset qui peut faire croire qu'il est père, en fait. Mais en réalité. Mais si même Paul a apporté quelque chose à la foi, on dit qu'Abraham est le père de la foi, mais néanmoins, il y a un seul qui nous a régénéré en Christ, la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Je crois que ça, on a bien compris. On continue, les sept âges de l'Église, chapitre 5, page 190. Pour rendre ceci encore plus clair, j'expliquerai le nicolaïsme de la façon suivante. Vous vous souvenez qu'il est dit dans Apocalypse 13, 3, « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était de l'admiration derrière la bête. » Toujours, on éclaire toujours plus les choses avec la parole. On peut le lire dans Apocalypse 13. Lisons Apocalypse 13. À partir du premier verset, Apocalypse 13. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, ce qu'on a dit dimanche. Et le dragon lui donne sa puissance, et son trône, et un grand pouvoir. Cette bête, cette autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort. Donc, les sept têtes dont on a parlé pendant les âges de l'Église. Donc au début, il y avait le catholicisme au début. Et petit à petit, que le temps est passé, il y avait toujours ce même esprit, cette même bête, ce même racine, cette même direction. Voilà pourquoi dans cette tête, on relit, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 10 rois, ce sont 10 rois. Et cette tête est une à cause du réveil de Luther. Les protestants, il y avait une tête qui avait été frappée. Mais ensuite, elle a été guérie. Donc, la blessure mortelle avait été guérie. C'est ce qu'on lit ici au verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Et la terre tout entière était de l'admiration de la bête, comme si elle avait repris vie. Elle avait repris vie. Et les choses à chaque fois se répétaient au cours des âges de l'Église. Donc c'est important de savoir qu'il y a un esprit nicolaïte. On l'a jusque maintenant, jusque dans le dernier âge de l'Église. Vous voyez, il faut comprendre la chose bien clairement. On l'a encore maintenant. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. On continue La lecture des sept âges de l'Église. On continue la lecture. Maintenant, et toute l'altérité de la nation, maintenant nous savons que la tête blessée était l'Empire romain païen, cette grande puissance politique mondiale. Cette tête s'est relevée comme l'Empire spirituel catholique romain. Observez bien ceci. Quel était, dans les actions de la Rome païenne politique, le fondement de son succès? Donc, on aurait dit que tout allait bien pour l'Église catholique de Rome. Toujours plus de pouvoir, elle prenait toujours plus de place. Et on voit ici une réponse qui nous concerne tous, une réponse importante. C'était quoi son succès? Donc, elle divisait pour vaincre. Elle divisait pour vaincre. C'était là la semence de Rome. Divisée pour vaincre. Elle déchirait et dévorait de ses dents de fer. Donc, vous pouvez lire dans Daniel, on peut lire cette chose-là. Donc, la bête, on la trouve là. Donc, les dents de fer qui faisaient vraiment table rase, qui détruisaient tout. C'est ce qui s'est passé. Donc, la semence de Rome divisée pour vaincre, elle déchirait et dévorait de ses dents de fer. Ceux qu'elle avait déchirés et dévorés ne pouvaient plus se relever, comme ce fut le cas pour Carthage, qu'elle avait détruite et anéantie. Donc, quand on était à l'école, on apprenait ces choses-là. Je crois que c'était en Libye, quelque chose comme ça, c'était des cours d'histoire qu'on avait. Quoi qu'il en soit, la même semence de fer est restée en elle quand elle s'est élevée comme la fausse Église. Et son principe est resté le même, diviser pour vaincre. Attention, c'est encore la même chose maintenant. Parce que j'aimerais m'arrêter un peu là-dessus. Parce que ça concerne les frères du message, dans le message que Dieu fasse grâce et qu'il nous donne la force de comprendre ce que l'Esprit dit aux églises pour corriger et les frères qui écoutent, qu'ils puissent corriger leur chemin, qu'ils puissent se remettre sur le chemin juste. C'est cela le nicolaïsme, diviser et vaincre, c'est cela le nicolaïsme. Cet esprit nicolaïte, attention. Et Dieu le est. Or, c'est un fait historique, bien connu, que quand cette erreur s'est introduite dans l'Église, les hommes se sont mis à rivaliser pour accéder à la fonction d'évêque. Voyez? Regardez cet esprit. Quand cette erreur s'est introduite dans l'Église, les hommes se sont mis à rivaliser pour accéder à la fonction d'évêque, ce qui eut pour effet de donner cette fonction aux hommes les plus instruits, comme on voit ça maintenant, à ceux qui avaient le plus de succès matériel et qui avaient une tournure d'esprit politique. Vous voyez la mentalité politique? Ils vont ensemble, ils marchent ensemble. La connaissance et les projets humains ont commencé à prendre la place de la sagesse divine. Et ce n'est plus le Saint-Esprit qui contrôlait. Alléluia. Vous voyez, c'est une chose très profonde. On l'a vu. Et on était vraiment sur le juste sentier. Je crois vraiment ça de tout mon cœur. Mais voilà, diviser pour vaincre. Pourquoi? Pourquoi diviser et vaincre? Écoutez bien, réfléchissez bien. Seulement pour pouvoir régner. Uniquement, ça on le sait, c'est uniquement pour pouvoir régner. Et pour pouvoir régner, même chez les politiciens, ils doivent diviser pour conquérir. Ils doivent diviser. Et aujourd'hui, c'est encore pareil. Dans l'Église, encore, on trouve encore cet esprit. Je le dis au nom du Seigneur Jésus. On voit encore cela dans l'Église qui a reçu le message du temps de la fin. C'est vrai. Maintenant, pourquoi Dieu ne veut pas de division dans les églises, dans l'Église? Pourquoi? Pourquoi Dieu ne veut pas les divisions entre frères? Parce que c'est une chose qu'il est. Il est ces divisions. Parce que justement, il y a cet esprit nicolaïte qui est là, qui cherche toujours cette chose à pouvoir régner au milieu des frères. Et les laisser là, dans cette position-là. Mais l'épouse de Jésus-Christ, je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, a fui à ces choses. Elle fuit ces choses pour avoir un seul roi, le Christ Jésus. Alléluia, vous y êtes. Laissez un seul roi, afin que toi et moi, on puisse être guidés par le même Esprit Saint, sous la même direction, où il n'y a pas de chef, mais qu'il n'y a qu'un seul chef, et où il n'y a pas de compétition, et qu'il n'y a pas de compétition, qu'il n'y en ait plus, absolument pas. Parce que c'est ça, cet esprit de Nicolaïte, faire de la compétition, faire descendre quelqu'un et élever quelqu'un d'autre. Ça, c'est complètement faux. C'est diabolique. Lisons un passage. Commençons Genèse. Donc, il y a un frère qui pensait que la blessure était l'Allemagne qui a été divisée en deux. Voilà, le frère reprend cette expression de Martin, cette action de Martin Luther. La brèche dans l'Église catholique. De cette époque-là sont sortis les protestants. Maintenant, ils sont retournés dans le communisme. C'est pour ça que la blessure a été guérie. C'était le communisme qui a été formé. Ça, on peut lire ça dans l'Apocalypse 13. On voit qu'il y avait cet œcuménisme qui est sorti, de façon que eux aussi puissent y entrer. Toutes les églises, et même les pentecôtistes d'aujourd'hui, ils sont tous rentrés de cet œcuménisme. Et ils font partie de la même mère qui est l'Église catholique de Rome. Voilà. Tout retourne à cette origine de cette tête qui était blessée et guérie. Et qui a reçu tout le pouvoir, momentanément, ce pouvoir. Voilà, nous continuons dans Genèse au chapitre 3. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, que Dieu nous aide à répondre. Donc dans Genèse chapitre 6, quand il y a eu cette promiscuité, disons, il y avait l'hybridation qui est suivie. Et quand il y a cette espèce de gouvernement, disons, quand il y a ce type de gouvernement, il y a une hybridation. C'est-à-dire qu'il y a des choses complètement mélangées, donc des fausses doctrines, des fausses prises de position des frères, des interprétations, des prises de position fausses par-ci, par-là, chacun se bloque de sa position, etc. Et toutes ces choses naissent de là. Et là, dans Genèse, si on voit au chapitre 6, on voit ça. Si on prend le verset 3, et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair. Mais ses jours seront 120 ans. » En ce temps-là, je devais lire le verset 2. Hein. Lisons depuis le premier verset 6. « Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu, ce sont des personnes, hein, les fils de Dieu, donc il y avait deux semences bien séparées à l'époque, en ce temps-là, donc des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent que les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair. Mais ses jours seront 120 ans. » Et les géants étaient là sur la surface de la terre en ces jours-là. Et l'hybridation d'aujourd'hui, à travers cette parole, diviser, conquérir, pour régner, toutes ces choses viennent de là, tous ces serviteurs hybrides, disons, on peut le dire, en toute franchise, des serviteurs hybrides. Voilà pourquoi encore le Seigneur lance l'appel, encore aujourd'hui, à travers le serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu, voilà pourquoi Dieu a envoyé un message, de façon que chaque chose puisse être restaurée, remise à sa place, remise sur le chandelier, de façon que on puisse que l'Église reprenne sa juste fonction et que toute hybridation, que toute semence hybridée, mélangée, soit ôtée et que seule la vraie parole, la semence originale, subsiste. Voilà pourquoi le message est venu, voilà pourquoi encore à Krefeld, la parole de Dieu est prêchée, annoncée de la même manière. Et cette chose est importante. Jean 17, 23, lisons. Donc, à partir de la séparation, diviser, conquérir, il y a des règnes qui est né, mais c'est un règne qui est né, mais c'est un règne hybride, qui n'a rien à voir avec l'original de Dieu. Jean 17, 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez qu'ils soient un, ce qui est totalement contraire à cette histoire de division, pour conquérir. Dieu veut l'unité. Voilà pourquoi encore l'appel du frère Franck, on le nomme. Mais ce n'est pas pour adorer un homme, mais c'est pour citer la parole. Tant que l'Église épouse, est séparée, que les serviteurs, les frères qui se disent avoir un ministère, même ceux qui sont dans une même assemblée, tant qu'il n'y a pas vraiment l'unité de l'esprit, c'est comme s'il régnait encore l'esprit nicolaïte. Vous comprenez? On peut dire Amen. Amen. Donc j'aimerais bien vous entendre dire Amen avec ce système. C'est dommage. Voilà, vous comprenez que c'est important. Ça veut dire qu'on est encore... Si l'Église n'est pas entièrement libérée de cet esprit-là, ça veut dire qu'il y a encore cet esprit nicolaïte qui est là et qui cherche à diviser pour pouvoir régner et pour se mettre à la place de Dieu, à la place de l'esprit, de la parole. Lisons Éphésiens 4. Éphésiens 4, 3. Ce sont des passages qu'on connaît. On les prononce souvent. C'est vraiment, on va lire le contraire de l'esprit de Colette. L'Esprit Saint est opposé. Éphésiens 4, premier verset. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ils cherchent l'union. Le peuple d'Israël était uni sous un seul chef. Alors que il y avait des sacrifices, ils obéissaient à la parole, et chaque fois qu'ils faisaient comme ça, ils gagnaient les batailles. Chaque fois qu'il y avait un ennemi qui venait, ils étaient comme un seul homme. C'est écrit souvent dans l'Ancien Testament, cette expression, un seul homme, comme un seul homme. Mais même s'ils étaient 12 tribus, mais c'était comme un seul homme. Vous voyez un peu, regardez cet esprit, cette chose-là, c'est important. 12 tribus, c'est énorme en termes de quantité de personnes. Et pourtant, ils étaient comme un seul homme, soumis à sous un seul roi. Et à ce temps-là, il y avait des prophètes, il y avait des rois, mais ils étaient soumis à un seul chef, c'est important. Il y a un seul corps, vous connaissez ça, il y a un seul corps, un seul esprit, etc. J'avais aussi noté dans Daniel, si je ne me trompe pas, Daniel 2, dans Daniel, oui c'est ça, c'est Daniel 2, 43, 2, 43. Et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, c'est la statue que Nebuchadnezzar avait vue, et Daniel avait eu l'interprétation, la révélation juste, la révélation juste. Donc, et selon que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile grasse, ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils n'adhéreront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mêle pas avec l'argile. Vous avez compris? Donc ici, on parle de la parole prophétique. Ça nous fait entrer dans tout ce que nous avons entendu sur les époques de l'Église et sur la révélation de Jésus-Christ du frère Branham, sur les sept sceaux. Vous voyez, c'est impossible qu'on puisse avoir une relation, disons, qu'il puisse être un, c'est impossible. Vous voyez cet esprit nicolaïte? L'esprit nicolaïte et l'esprit de Christ ne peuvent jamais aller ensemble. En effet, il y avait des pieds. Donc une pierre, et ensuite là, l'argile et le fer ne se mêlent pas, et il y avait... Donc c'était pas de l'or, tout ça a été détruit par la pierre qui a été détachée sans main. C'est seulement le Seigneur qui peut gouverner la terre. Tout a été détruit à la fin. Acte. Vous pouvez souligner celui-là, parce que c'est important de le lire. Acte. Chapitre 3. 3, 12, je crois. Donc beaucoup de... Donc il se rassemble au portique de Salomon. Et beaucoup. Et donc c'était le 5-12. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres, et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mais d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Donc, et des croyants, d'autant plus nombreux, se joignaient au Seigneur. Donc baptisés tous ensemble au nom de Jésus-Christ, baptisés d'un seul esprit aussi. C'est juste une multitude tant d'hommes que de femmes. 1 Corinthiens 1, 10. 1 Corinthiens 1, 10. Donc régner pour diviser. Diviser pour conquérir, c'est ça. C'est ce que, encore aujourd'hui, il y a cet antagonisme. Il y a cette manière de pouvoir accéder à une hauteur, à un poste. Et on voit encore ça maintenant. Au lieu d'être mis à part et être tranquille, on veut à tout prix arriver à conquérir un poste, une place, à être quelqu'un d'important. Donc j'avais dit à Corinthiens 1, 10. 1, 10. Or, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à parler tous un même langage, à ce qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment. Et comment est-ce qu'on peut faire? Vous voyez? Dans un même sentiment, c'est important. Que Dieu vraiment nous aide. Dans un même sentiment et... Mais comment est-ce qu'on peut faire? Bien sûr que dans la personnalité de chacun, chacun a son avis. Mais si on parle de la parole, on parle de l'esprit, de la semence de la parole. Parce qu'autrement, s'il y a un autre esprit, une autre pensée en dehors de celle qui est la parole de Dieu, alors il y a un autre esprit, il y a un autre esprit. Donc, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, que vous soyez parfaitement unis dans un même sentiment et dans un même avis. Donc, on connaît ces choses-là. Dieu nous invite avec force, avec autorité. Rassemble mon peuple qui a fait alliance avec moi par le sacrifice. Il y a une union. Ces cinq vierges sages, elles étaient unies. Comme aussi les cinq vierges folles ont aussi leur propre union. Ce sont deux unions complètement diverses. Que Dieu vraiment nous aide à entrer vraiment là-dedans. On a vraiment besoin de connaître ça. Donc, mais qu'est-ce qui fait coller tout cela? C'est l'amour de Dieu envers la parole et les frères. C'est ça le liant, ce qui lie, le liant ou la colle. Et on peut aussi le lire, vous connaissez aussi ce passage dans Colossiens 3, 4, où il est écrit que l'amour est le lien de la perfection, n'est-ce pas? Le lien de la perfection, c'est l'amour qui unit toutes choses. Mais là, alors, il ne peut pas y avoir cette pensée de diviser pour régner, absolument pas. Oui. Mais en Christ, il y a la soumission l'un à l'autre dans l'esprit, dans l'obéissance, tranquille, en attendant les manifestations de Dieu, en attendant quand Dieu parle, quand Dieu dit des choses. Des fois, c'est des petites choses. Nous, on veut voir de grandes choses, mais parfois, dans les petites choses, le Seigneur se manifeste. Il nous fait voir que lui, il est présent avec nous, que lui est là. Il n'est pas loin, il est ici tout près. Donc cette parole, diviser et conquérir, c'est important et c'est profond. Et cette parole, on l'a encore malheureusement aujourd'hui. Que Dieu fasse grâce. Que nous fasse grâce de la discerner, de la voir. Et quand on discerne, on doit la condamner. Il faut la condamner. Il faut la condamner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et essayer de sortir, de nous éloigner de cette sorte de semence. Qui est vraiment hybride, complètement hybride. Comme on l'a déjà lu avant. Ils ont mis les hommes pour gouverner, etc. Tout est hybride. Et dans cette parole hybride, il y a les pharisiens, ils parlent bien, ils cherchent des personnes intelligentes, etc. Et tout cela, on l'a lu, on le connaît. Au lieu de parler avec l'autorité du Saint-Esprit, on voit que ils veulent écouter des belles paroles. Que Dieu nous bénisse et nous aide. Nous continuons dans la lecture. On a encore un peu de temps. Donc je continue la lecture de l'histoire. Donc c'était Donc la connaissance et les projets humains ont commencé à prendre la place de la sagesse divine et ce n'est plus le Saint-Esprit qui contrôlait. Ce fut réellement un mal tragique. Ce fut réellement un mal tragique car les évêques se mirent à soutenir qu'il n'y avait plus besoin d'être un chrétien. Attention, ça c'est profond. Quelque chose de particulier. Les évêques se mirent à soutenir qu'il n'y avait plus besoin d'être un chrétien intègre pour apporter la parole ou pour accomplir les rites dans l'église, car c'était les éléments et le cérémonial qui comptaient. Ceci permit à des hommes mauvais, des séducteurs, de déchirer le troupeau, c'est-à-dire de le ruiner, le détruire, être comme des loups ravisseurs, rapaces, pour tuer le troupeau. Et ça, on l'a tous constaté, nous tous. Et après avoir établi cette doctrine d'homme, d'élever les évêques à une place qui ne leur est pas accordée dans les Écritures, et l'étape suivante fut de distribuer des titres en forme de grades qui devinrent une hiérarchie religieuse. Évidemment, ceci, on ne l'a pas ouvertement, officiellement de l'Église du Message, de l'Église catholique, très bien, très bien. Mais néanmoins, alors qu'il y eut en effet bientôt des archevêques au-dessus des évêques, des cardinaux au-dessus des archevêques, et dès l'époque de Boniface III, il y avait au-dessus de tous un pape, un pontife. Voilà pourquoi l'évêque, la fonction évêque, donc le service de surveillant, comme le dit l'Écriture, il doit être irrépréhensible. Ou je me trompe? C'est écrit comme ça. C'est dans Timothée, au chapitre 3. C'est écrit. Celui qui aspire à la surveillance, etc., etc. Il doit être irrépréhensible. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas faire semblant. Et alors, tandis que les autres ici, ils disaient, il n'y a pas besoin d'être chrétien. Non, au contraire. Il faut vraiment qu'il y ait une nouvelle naissance, qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit et qu'il y ait l'obéissance à la parole. Ça, c'est surveillant, c'est-à-dire un vrai ancien. Vous pouvez l'appeler comme ça, un ancien qui est dans le service. Donc il est nécessaire qu'il soit répréhensible. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est moi qui ai noté. Voilà pourquoi l'évêque, en tant que fonction, doit être irrépréhensible. Alléluia. Donc jusque-là, on est d'accord que c'est comme ça que ça doit être. On continue à lire. On arrive à la page 191. Donc, les sept âges de l'Église, chapitre 5, page 191. Avec la doctrine nicolaïte et l'amalgame du christianisme et du babylonisme, fut réalisé ce qu'Ézéchiel avait vu dans Ézéchiel 8, 10. Ézéchiel 8, 10, donc on le lit ici. J'entrai et je regardai. Et voici, il y avait toutes sortes de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Et Apocalypse 18, 2, il cria d'une voix forte, disant : elle est tombée Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Alléluia, c'est vrai. Or, cette doctrine nicolaïte, cette domination qui avait été établie dans l'Église n'était pas très bien acceptée par un bon nombre de personnes, car ces dernières pouvaient lire quelque épître ou quelque essai sur la parole, écrit par un homme pieux. Que fit alors l'Église? Donc parce qu'ils ont été refutés, parce qu'ils ont été repoussés. Qu'est-ce qu'elle fit? Elle excommunia, donc l'Église de nom, elle excommunia les enseignants intègres et brûla les rouleaux. Ils dirent, il faut une instruction spéciale pour pouvoir lire et comprendre la parole. Pierre lui-même ne disait-il pas que beaucoup de choses que Paul avait écrites étaient difficiles à comprendre? Vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez ce que disait l'Église catholique. C'est dans 2 Pierre. Donc, comme on avait soustrait la parole au peuple, celui-ci en fut bientôt réduit à écouter seulement ce que le prêtre avait à dire et à faire ce qu'il lui dictait. Ils appelaient cela Dieu, c'est cette parole. Ils s'emparèrent de la pensée et de la vie des gens et en firent les esclaves d'une prêtrise despotique. Maintenant, si vous voulez une preuve que l'Église catholique exige la vie et l'esprit des hommes, écoutez l'édit de Théodose X. On l'avait dit la dernière fois, on parlait d'une armée que le pape utilise, des gens instruits, avec qui on ne pouvait même pas discuter. Donc, écoutez l'édit de Théodose X. Et on a le premier édit de Théodose, ce qu'il dit. Cet édit fut promulgué, donc je lis, à la suite de son baptême par la première église de Rome. Ouvrez les guillemets. Nous citons. Nous, trois empereurs, voulons que nos sujets adhèrent fermement à la religion enseignée aux Romains par Saint-Pierre, fidèlement conservée par la tradition, et dont font maintenant profession le pontife Damase de Rome et l'évêque Pierre d'Alexandrie, homme d'une sainteté apostolique, selon l'institution des apôtres et la doctrine de l'Évangile. Croyons donc en une divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égaux en majesté dans la Sainte Trinité. Nous ordonnons que les adhérents à cette foi soient appelés les chrétiens catholiques. Vous voyez ? Pas chrétiens de Christ, hein, les catholiques. Nous marquons tous les adeptes insensés des autres religions du nom infâme d'hérétique et nous interdisons à leur regroupement de se donner le nom d'église. Outre la condamnation de la justice divine, ils doivent s'attendre aux lourdes peines de notre autorité, guidée par la sagesse céleste, jugera bon de leur infliger. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est le premier édit de Théodose qui est encore valide aujourd'hui. Donc, on termine ici. Les 15 lois pénales et promulguées en autant d'années par cet empereur privèrent les évangéliques de tous les droits d'exercice de leur religion, les exclurent de toutes les fonctions publiques et les menèrent d'amendes, de confiscation, d'exil et même, dans certains cas, de mort. Et encore aujourd'hui, on voit cette chose-là. On continue, chapitre 5, page 192. Savez-vous quoi? C'est ce qui nous pend au nez aujourd'hui. L'Église catholique romaine dit être l'Église mère. Elle dit être la première Église, l'Église originelle. C'est tout à fait exact. Elle était la première Église de Rome, celle de l'origine, qui a rétrogradé et qui a sombré dans le péché. Elle a été la première à s'organiser. On trouva en elle les œuvres, puis la doctrine du nicolaïsme. Personne ne niera qu'elle est une mère. Elle est une mère et elle a produit des filles. Or, une fille est issue d'une femme. Une femme vêtue de pourpre est assise sur les sept collines de Rome. Elle est une prostituée et elle a donné naissance à des filles. Ici, on voit dans Apocalypse. Ces filles sont les églises protestantes qu'ils sont sortis d'elle, pour ensuite revenir à l'organisation ionicolisme, comme on l'a lu au commencement. Cette mère des églises filles est appelée, une prostituée, c'est-à-dire une femme infidèle à ses vœux de mariage. Elle a été mariée à Dieu, puis elle a dévié pour forniquer avec le diable. Et dans sa fornication, elle a produit des filles qui lui ressemblent. Cette combinaison de mère et de fille est anti-parole, anti-esprit, et par conséquent anti-Christ. Oui, anti-Christ. Apocalypse 17. Apocalypse 17, chapitre 17. Apocalypse 17. On commence au verset 3. Et il m'emporta, Apocalypse 17, 3, et il m'emporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et des cornes. Ce que Daniel avait vu. Donc il fait partie de la quatrième bête. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et les impuretés de sa fornication. Regardez cela spirituellement, au cours des âges de l'Église, au cours du temps. Tout ce qu'elle a fait, à la lumière. Regardez combien de personnes se réunissent, comme ils disent « urbi et orbi ». Quand le pape prêche de sa fenêtre là, dimanche, des milliers de personnes devant la fenêtre. Et c'est de là que ça vient, c'est cette semence-là. Vous voyez, ça vient de là. Mais il est vrai que Dieu peut encore appeler, puis encore sauver des personnes et les faire venir la lumière de la parole de Dieu. Vous y êtes. Ça, on le dit clairement. Ce n'est pas qu'ils sont condamnés à mourir. Mais encore aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Dieu appelle encore. Dieu baptise encore. Dieu édifie encore son église, sa maison, des personnes. Et les mène à réaliser le plan de Dieu pour l'humanité, le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Il y avait sur son front un nom écrit. Mystère, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Vous vous rendez compte, 68 millions de martyrs, c'est pas peu. On parle, il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup qui ont été tués. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et puis on voit qu'elle chevauche. Lisons cela. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu étonné? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans la fondation, dès la fondation du monde, au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. Et si elle a entendement qu'il y a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes où la femme est assise. Ce sont aussi sept rois Cinq sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Ce qu'on peut dire, c'est que chaque chose est en train d'être préparée afin que tout cela s'accomplisse. Déjà au Parlement européen, à Bruxelles, on l'a déjà vu. On a eu l'occasion d'y aller. On a vu cela. Comment est-ce qu'ils ont pu faire pour faire cette image? Quelle inspiration ils ont pu avoir pour faire exactement en statue cette une femme au-dessus d'un taureau avec des cornes, une femme, une forme de femme, donc taillée dans le métal, dessus, assise, en train de chevaucher cet animal, devant le Parlement européen. D'où est-ce que ça vient cette inspiration? Tout ça, c'est la représentation du nicolaïsme qui essaye encore jusqu'à la fin de s'immiscer. Apocalypse 12, j'ajoute ceci, dans Apocalypse 12. Dis cela, c'est juste pour ajouter un peu, pour terminer sur ce sujet. Et on va encore lire 13-18, on va le lire aussi. Apocalypse 12, verset 5. Et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a eu un lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours, 3 ans et demi. C'est comme on voit dans Daniel, etc. Mais surtout, une parole merveilleuse qu'on va lire, toujours dans le Apocalypse 12, au verset 11. Et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. On voit que ces personnes-là, on parle au début du fils mâle, a vaincu ces choses-là. Il a vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Ils l'ont exposé à la mort. On peut vraiment se réjouir, parce que l'épouse de Jésus-Christ réalisera tout cela. Et ça, c'est sûr, que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la force d'arriver à l'accomplissement du plan de Dieu et de résister jusque-là, et de ne pas succomber à cet esprit nicolaïte, et d'avoir la force de le rejeter, de vaincre, de combattre, et d'être présent quand le Seigneur revient. Apocalypse 13, 18. Apocalypse 13, 18. Et ici est la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Tout ça s'imbrique. On sait ces choses-là. Tout ça se relie les uns avec les autres. Tout cela s'imbrique dans ce contexte dont on est en train de parler maintenant. Parfaitement. Que le Seigneur nous bénisse, nous donne la force d'aller de l'avant. Lisons encore un petit moment. Donc, on finit la lecture du livre sur cet âge de l'Église, chapitre 5, page 102. Avant de continuer plus avant, je tiens à ajouter que ces premiers évêques se croyaient au-dessus de la parole. Ils disaient aux gens qu'ils pouvaient pardonner leurs péchés sur la confession de ces péchés. Cela n'a jamais été la vérité. Ils ont commencé à baptiser des nourrissons au deuxième siècle. En fait, ils pratiquaient le baptême de régénération. Rien d'étonnant que ce que les gens soient dans la confusion aujourd'hui. S'ils étaient dans la confusion à l'époque, aussi près du jour de la Pentecôte, ils sont aujourd'hui dans un état des plus désespérés, alors que près de 2000 ans les séparent de la vérité originelle. Et là, l'exhortation aux Églises de Dieu. Il n'y a qu'un seul espoir. Reviens à la parole et reste-y attaché. Amen. En parlant de la régénération. La régénération que nous voyons dans Tite. Au chapitre 2, lisons. Donc je vais donner encore cet éclaircissement. Parce qu'en Jésus seul, en 1909 à Zusastrit, il y a eu des gens qui baptisaient au nom de Jésus-Christ, d'autres qui baptisaient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il y avait aussi des unitariens qui baptisaient aussi pour la régénération. Vous voyez, tout ça, c'était faux. C'était faux. Maintenant, nous allons voir dans Tite. Parce qu'on parle de ça dans Tite. Et on ne parle pas de... Donc, c'est dans l'épître de Paul à Tite, chapitre 3, à partir de verset 4. « Mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, non sur le principe d'œuvre accomplie en justice, non sur le principe d'œuvre, vous voyez les Nicolaites, que nous eussions fait, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération. » Par le lavage de la régénération. Donc, notre bas de page ici, c'est un changement de position, un état de choses nouveau. La parole restaurée, régénérée, comme Éphésiens 5. Le lavage de la régénération. Le lavage par la parole. Mais là, c'est quand un ancien homme est régénéré. Mais là, avant, il n'y avait pas la nouvelle naissance, la régénération, le baptême, non. On parle ici dans Tite de renouvellement, le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Il faut comprendre c'est quoi la régénération et pourquoi les Jésus seul se trompait à l'époque. La doctrine des Jésus seul était fausse à l'époque. Parce qu'ils baptisaient pour la régénération. Verset 25, 1 Corinthiens, je n'ai pas suivi. Donc, époux aimés. Vos épouses, comme le Seigneur a aimé son Église, elle a lavé par l'eau, l'a sanctifiée par la parole. Vous avez compris? Faites un signe de tête au moins pour dire Amen. C'est important. Donc ça n'a rien à faire avec les gens qui commencent à baptiser les enfants au deuxième siècle. Et en fait, eux, ils pratiquaient le baptême de régénération. Voilà pourquoi c'est mieux de bien régler chaque chose, de mettre toute chose à sa place. Que Dieu bénisse nos cœurs et qu'il nous donne la force. Ce n'était pas pour la nouvelle naissance, mais c'est pour une régénération. Mais il n'y a pas eu de changement, en fait. Alors que Tite parle du changement, de la régénération de la parole de Dieu, par la parole de Dieu, le renouvellement par le Saint-Esprit. Vous voyez? Oui, la différence. Elle n'est pas petite, la différence. C'est la vie, en fait. C'est la communion avec le Seigneur, avec la parole, vous voyez, avec les frères. Ça, c'est tout, tout est différent. Que le Seigneur nous bénisse. Encore ce soir. Donc ça, c'était bien sûr de la plume de Livelle qui a écrit sur le 7e âge de l'Église. Mais au début, le frère Franck avait écrit dans les lettres circulaires qu'on pouvait uniquement lire l'aspect historique. Voilà, le frère Bruno l'a rappelé que c'est uniquement l'aspect historique. Donc des points historiques qui nous font malgré tout entrer dans la parole de Dieu, qui nous font accrocher à des versets, à la parole, et mettre les choses en relation avec les Écritures, avec l'histoire, avec l'Écriture. C'est aussi une bénédiction. Voilà pourquoi, quand on lisait au début, cet âge de l'Église, attention, toutes les fausses doctrines sont venues de là. Les septonnaires, la parousie, diverses choses. Beaucoup de fausses doctrines sont venues de là. Pourquoi? Parce que il a touché, je peux dire avec franchise, avec sincérité de cœur et librement, ça a touché certains cœurs, des cœurs. Moi, je l'ai lu. Bon, moi, je l'admets. Donc, j'ai lu, ça m'a fait du bien. Mais je ne suis pas devenu un branhamiste. Je ne suis pas attaché à des choses de Branham. J'ai pris les choses justes que je pouvais prendre. Et j'ai été édifié. Je n'ai pas eu de problème. Et quand même j'ai lu cette histoire du calendrier, ou quand j'ai lu l'histoire de 1977, moi, je n'ai pas eu de problème parce que nous, on était ancrés, on savait que cette chose était... Et nous, on traduisait à Lausanne, on a lu la révélation de Jésus-Christ qui n'avait rien à voir avec cette époque de l'Église de Livel, quand on a comparé les prédications de Frère Branham avec le livre de Livel. Donc il y avait la prédication nette et directe du Frère Branham. Et dedans, il n'y avait pas ces histoires de calendrier qui s'est arrêté en 1977, ou une vision que soi-disant le Frère Branham aurait eue avec le calendrier qui s'effeuillait, mais ça, Frère Branham ne l'a jamais eu. Et Frère Franck en a parlé aussi. Donc en lisant tous les mercredis, on a lu ça à un moment, dans la circulaire, on a lu ça, que le Frère Franck avait relevé ça. Donc c'est important d'être ancré dans les Écritures, par l'Esprit de Dieu, ancré en Christ. Et alors là, on reçoit les pleines bénédictions. Autrement, on est vraiment vacillant. C'est important de réaliser cela. Beaucoup, beaucoup qui sont maintenant dans le message, et j'en ai connu, beaucoup ont été baptisés par nous, les Italiens, baptisés au nom de Jésus, mais ils ont été baptisés pour la régénération. Et ils n'ont pas l'intention de se refaire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la nouvelle, pour recevoir, en vue de recevoir le Saint-Esprit, par obéissance. Vous voyez, c'est important. Ils ne veulent même pas. Ils disent, oh, moi j'étais baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, 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 mon ami, tu t'es trompé. Tu dois te refaire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Pour le pardon des péchés, non pas pour une régénération, pour le pardon des péchés. Vous voyez, c'est important que chaque chose revienne à l'origine, à l'original. La parole de Dieu est la semence originelle. Amen, alléluia. Que Dieu nous bénisse. On ne veut pas faire comme l'autre soir, l'autre mercredi, on avait clôturé sans prier. Est-ce que vous voulez bien montrer vos visages, si vous êtes présents, vous êtes là? Combien sont encore là? Gloire à Dieu. Qui manque là, qui est là? Montrez vos visages. Beaucoup peut-être sont allés dormir. Frère Antonio est là. Frère Jérémy, papa, où es-tu? Papa, tu n'es plus là. Je ne le vois pas bien. Donc je ne sais pas très bien utiliser peut-être un zoom peut-être. Voilà. J'aimerais vous voir tous en haut à droite. Voilà, maintenant je vous vois tous. Maintenant je vous vois tous. C'est bien la technologie. Pardonnez-moi, voilà le frère Josie aussi, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Maintenant, je vous vois. Je suis content. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur encore pour cette explication, pour ces choses-ci qu'on a lues, qui nous donne de la clarté et qui illumine nos cœurs. Amen. Alléluia. Qui veut remercier le Seigneur? Qui a à cœur de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Frère Antonio. Frère Antonio, remercie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te remercier, Seigneur du ciel et de la terre, encore pour cette réunion. Merci, Père, parce qu'il est vrai que nous sommes dans les derniers temps. Et nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons nous sanctifier toujours plus. Nous voulons coller à ton enseignement, à ta parole. Nous voulons que toi, tu nous guides et que ta vie se manifeste en nous. Ô Seigneur, Père Céleste, fais-nous grâce de nous remplir de ton esprit, de nous donner continuellement ton enseignement et qu'elle prenne vie à chacun d'entre nous. Ô Seigneur, tu as établi ton Église. Tu as donné des directives à ton Église. Aide-nous, Seigneur, à maintenir cette position jusqu'à la fin. Aide-nous à être prêts pour le jour de l'enlèvement. Parce qu'en voyant ces plaies, en voyant les temps dans lesquels nous vivons, Seigneur, nous sommes en train de voir que vraiment nous sommes dans les derniers jours. Que tu puisses accorder ta grâce, ta miséricorde. Fortifie-nous toujours plus dans la foi. Nous fortifions toujours plus dans ta parole. Et nous aidons, ô Seigneur, à rester bien solide et ferme, en regardant continuellement à la croix de Golgotha, en regardant continuellement à ta face. Fais-nous grâce et bénis-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Fortifie de la foi ceux qui traduisent. Fortifie de la foi, mon frère Forestieri, Seigneur. Et que chaque chose soit guidée continuellement par toi, qui est l'Éternel, le Dieu d'Israël, le vrai seul Dieu. Il est vrai que nous sommes fatigués, Père Céleste, mais aussi écouter ta parole est une restauration pour nos âmes. que tu puisses nous accorder ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Et faire de nous continuellement, nous faire méditer ton enseignement. Oh oui, Seigneur. Durant tous les jours de nos vies. Fais-nous grâce. Nous en demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, comme on a dit aussi, Frère Patti, peut-être on ne l'a pas dit, et peut-être pas Déborah, vous n'étiez peut-être... Donc, dimanche, il y a Zurich en direct. Donc, c'est le dernier, la dernière réunion du mois, le dernier dimanche du mois. Et on ne fait plus ça à 14h, mais on fait ça à 10h. Donc, le frère Franck prêche à 10h. Et nous, on voulait écouter cette prédication directe de Zurich. Donc, on peut écouter ça chacun depuis chez soi, en direct de Zurich. Et ensuite, parce que le frère Franck ne prend pas tout le temps qu'il prend d'habitude. Il prend peut-être une petite heure, peut-être trois quarts d'heure. Et ensuite, on a quand même la plateforme. On pourrait peut-être encore rester encore un peu sur la plateforme. Et puis après, pour partager encore un tout petit peu ce qui avait été dit, mais sans grande prédication particulière, mais simplement partager ce que le Seigneur nous a dit à travers son serviteur, Frère Franck, et qu'on puisse peut-être relever peut-être quelque chose ou échanger quelque chose. Voilà. Je pense que ça nous fera du bien, chacun d'entre nous, je pense. Donc peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis c'est tout. Et on va manger ensuite. Donc, voilà, on peut le dire à tous les absents aussi, le frère Jérémy et les absents aussi. Je pense que je l'ai aussi dit au frère hier soir, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un peu le... Je crois que ce sera une bonne chose. Sinon, ce sera difficile. Donc, parce qu'avant, on faisait la réunion ici. Ensuite, l'après-midi, on écoutait les Zurich. Mais maintenant... Donc voilà. Frère Doriano peut... Frère Doriano pourra écouter avec sa mère. Donc... Voilà. Frère Doriano pourra s'occuper de sa maman pour la connexion. On verra ça dimanche. Voilà, Frère Salvatore aussi va... On va s'occuper de lui aussi. Donc, Frère Franco va expliquer tout ça.